Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Eric Manirakiza, en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Il est 18h30, temps universel. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, du vendredi 10 novembre 2017. D'abord, le sommaire. En Mauritanie, pourvoi en cassation contre la libération d'un jeune blogueur. Ce verdict a provoqué des manifestations de protestation à Nouakchott. Bujumbura rejette catégoriquement l'ouverture d'une enquête par la CPI sur des présumés crimes contre l'humanité et refuse de collaborer. Fin de l'information judiciaire sur le massacre du stade de Conakry en 2009.
C'est une satisfaction pour la justice guinéenne, pour le gouvernement guinéen et pour le peuple guinéen.
Le ministre de la justice guinéen, Cheikh Sakho. Le Vietnam abrite le sommet Asie-Pacifique. Le président américain Donald Trump brandit sa politique dite de l'Amérique d'abord. Et retrouvez Yacouba Ouedraogo pour votre page des sports. Le Sénégal affronte l'Afrique du Sud pour une qualification mondiale et Arzuma Compaoré pour l'actualité économique juste après le journal. Je vous le disais dans les titres, en Mauritanie, le parquet a introduit un pourvoi en cassation contre la condamnation à 2 ans de prison d'un jeune homme. Old Moreitir avait écrit un billet de blog jugé blasphématoire. John Lindon pour les détails.
À la suite de la décision de la cour d'appel de Nouadhibo hier, le parquet a introduit un recours en cassation devant la Cour suprême qui avait annulé la condamnation à mort décidée en première instance. Ce pourvoi n'est pas suspensif de la remise en liberté de Mohamed Cheikh Ould Mohamed qui a déjà passé près de 4 ans en prison. Mouhatir, âgé d'une trentaine d'années, est en détention depuis janvier 2014 pour un article sur Internet taxé de blasphématoire envers le prophète de l'islam. Il avait été reconnu coupable d'apostasie et condamné à mort par la cour criminelle de Nouadhibo. L'annonce du verdict hier n'a pas plu aux participants d'une nouvelle condamnation à mort qui ont lancé des appels sur les réseaux sociaux pour que soient organisées des manifs ce vendredi après la grande prière.
John Lindon, un tribunal nigérian a acquitté 10 partisans du mouvement chiite islamique du Nigeria. Ils étaient détenus depuis près de 2 ans après des affrontements avec l'armée. Toujours au Nigeria, la police a arrêté 2 personnes soupçonnées de l'enlèvement en octobre de 4 Britanniques dans le sud pétrolier du pays. Un 3e suspect a été tué lors d'une fusillade avec la police. Au Niger, Amnesty International demande la libération de 3 dirigeants d'une association locale écrouée fin octobre. Ils ont été arrêtés à la suite d'une violente manifestation contre la loi de finances 2018, jugée antisociale par des protestataires. Les forces armées burkinabées intensifient leur traque des groupes terroristes opérant à la frontière avec le Mali. Le groupement des forces antiterroristes a tué 10 d'éléments armés à Ariel dans les confins du Sahel burkinabé. Le point avec Zoumana Onogo à Ouagadougou.
10 terroristes tués, des armements récupérés et des motos détruites. Tel est le bilan de l'opération menée ce jeudi aux environs de 13h par le GIFAT, groupement des forces antiterroristes du Burkina à Ariel, localité située au nord Burkina et à quelques encablures de la frontière avec le Mali. Selon le commandant Evrard Somda, chef du groupement antiterroriste de la gendarmerie nationale, l'accrochage a été intense, mais la riposte des forces de défense burkinabé a permis de neutraliser les terroristes, de récupérer des armes et de détruire les motos qui leur servaient de moyens de déplacement pour commettre leur forfaiture. Les éléments des forces antiterroristes ne déplorent aucune perte en vie humaine, mais 3 d'entre eux ont été blessés, dont 1 gravement. Cette opération a été saluée par la population qui avait commencé à désespérer des forces de défense, tant les attaques des terroristes au nord Burkina étaient fréquentes et mortelles. Zoumana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Les juges d'instruction guinéens qui enquêtent sur le massacre du stade de Conakry en 2009 ont transmis le dossier au parquet Plus de 8 ans après les faits, cette étape ouvre la voie à un procès. Des militaires ont tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition. L'opposant kenyan Raila Odinga à Washington, il a vivement critiqué le rôle des diplomates occidentaux et des observateurs internationaux dans les élections kenyanes. D'après M. Odinga, le Kenya fonce vers une dictature et beaucoup se demandent pourquoi des partenaires de longue date ne s'en émeuvent pas publiquement. Au Burundi, le gouvernement a rejeté catégoriquement la décision de la CPI d'autoriser l'ouverture d'une enquête sur des crimes contre l'humanité présumés entre 2015 et 2017. La ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, assure que Bujumbura ne collaborera jamais avec cette cour. Les autorités burundaises ont appelé à des manifestations dans toutes les provinces du pays demain samedi contre la CPI. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Élections en RDC, les Nations Unies, les États-Unis et l'Union européenne se sont ralliés au calendrier électoral annoncé par les autorités, mais sous conditions. Ce calendrier renvoie au 23 décembre 2018 la présidentielle pour désigner le successeur à Joseph Kabila. Le mouvement citoyen de la Lucha a lancé un appel à une première journée de mobilisation pour le 15 novembre. La justice zimbabwéenne a remis en liberté sous caution 4 jeunes. Ils étaient accusés de saper l'autorité du président Robert Mugabe pour avoir hué la première dame Grace Mugabe durant un rassemblement politique à Bulawayo dans le sud-ouest. Ils sont interdits d'assister au prochain meeting de M. Mugabe à Harare. Le tribunal a autorisé leur libération contre une caution de $50 par personne. Toujours au Zimbabwe, un tribunal de Harare a ordonné hier la libération sous caution d'une journaliste américaine, Martha O'Donovan. Elle est accusée de tentative de subversion pour avoir qualifié sur Twitter le président Mugabe d'égoïste et malade. Les États-Unis ont mené en Somalie une frappe contre des islamistes Shebab à l'ouest de Mogadiscio, tuant plusieurs islamistes. L'état d'urgence en Tunisie a de nouveau été prolongé de 3 mois. Il a été instauré il y a 2 ans à la suite d'une série d'attentats sanglants.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain est à Da Nang, au Vietnam, 4e étape de sa tournée de 12 jours en Asie. Il participe au sommet de l'APC, le Forum de coopération économique des pays de la région Asie-Pacifique. La rencontre envisagée entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine n'aura pas lieu en marge de ce sommet, selon la Maison Blanche. Jacques Aristide.
Ce tête-à-tête avait pourtant été évoqué par le président Trump lui-même, mais sa porte-parole, Sarah Sanders, affirme qu'aucune rencontre n'a jamais été confirmée et qu'il n'y en aura pas en raison de problèmes d'agenda des deux côtés. Elle précise cependant qu'il est probable que les deux dirigeants se croisent en marge de ce sommet. Dès son arrivée à Da Nang pour le forum APEC, le président américain a prononcé un discours musclé sur le commerce. Il a prévenu ses partenaires que les États-Unis ne vont plus tolérer les déséquilibres commerciaux. L'Amérique, dit-il, est disposée à signer des accords bilatéraux avec tous les pays de la région Indo-Pacifique, à condition qu'il repose sur le respect et le bénéfice mutuel. Donald Trump ajoute qu'il mettra toujours l'Amérique d'abord et entend ainsi protéger les salariés américains. Ses propos contrastent avec ceux de son homologue chinois Xi Jinping, qui a déclaré à Da Nang que la mondialisation était un processus irréversible, plaidant en faveur du développement des accords commerciaux bilatéraux.
Jacques Aristide, au Liban, le président Michel Aoun a appelé au retour du Premier ministre Saad Hariri, qui a annoncé sa démission à Riyad. Monsieur Aoun venait de rencontrer le chargé d'affaires saoudien à Beyrouth, n'est-ce pas, Eki Abadou?
Saad Hariri n'est pas rentré au Liban depuis l'annonce de sa démission samedi dernier. Beyrouth, qui juge inacceptable cette démission, demande le retour du chef du gouvernement. Monsieur Hariri, annonçant sa démission le 4 novembre, avait invoqué la mainmise de l'Iran et de son allié, le Hezbollah chiite, sur le gouvernement libanais. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait part de sa grande inquiétude face à cette situation et dit multiplier les contacts pour éviter une escalade aux conséquences tragiques. Aussi, le président français Emmanuel Macron a effectué une visite surprise à Riyad pour tenter de calmer la montée de tensions entre Riyad et Téhéran. Paris fait savoir que le premier ministre Saad Hariri est libre de ses mouvements. L'Arabie saoudite a accusé l'Iran de déclaration de guerre après le tir d'un missile en provenance du Yémen. Le Liban, comme souvent, fait office de champ de bataille par procuration. Ce pays a été déchiré par une guerre civile meurtrière, puis par un conflit avec son voisin israélien en 2016.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, elle est signée Arzuma Compaoré.
Areva, le groupe nucléaire français, veut assurer la viabilité de ses deux filiales au Niger grâce à des mesures drastiques, dont plusieurs centaines de licenciements en 2018. Selon Philippe Notch, l'objectif pour les conseils d'administration de Cominac et Somaïr, les deux mines d'Areva dans le nord du Niger, est d'assurer la viabilité des sociétés et réaliser l'équivalent de 60 milliards de francs CFA d'économie chaque année. Le Niger est le quatrième producteur d'uranium au monde. Areva y exploite l'uranium depuis près de 50 ans. Le Gabon veut lutter contre la fraude frontalière et améliorer les recettes douanières. Pour Ike Ngouni Aila Oyomi, porte-parole de la présidence, cette opération baptisée Aigle Douane a pour objectif d'optimiser les recettes douanières et de protéger les consommateurs des produits et trafics illicites en tout genre. 115 millions d'euros pour Air Côte d'Ivoire. La Banque africaine de développement a accordé ce financement à la compagnie nationale ivoirienne pour moderniser sa flotte et ouvrir de nouvelles dessertes. Ce financement rentre dans le cadre d'un partenariat public-privé d'un montant total de 253 millions d'euros pour développer la compagnie ivoirienne, partenaire d'Air France. 700 nouveaux emplois d'ici 2020 sont prévus.
Et c'est les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
La grosse actualité sportive ce soir, c'est le match Afrique du Sud-Sénégal et les Lions de la Teranga mènent déjà 2-0.
Tout à fait, Eric. Cette fameuse reprise de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018 dans le groupe D. Amdine Si, l'envoyé spécial de VOA Afrique, est sur place à Polokwane. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Yacouba et bienvenue au stade Peter Makoba de Polokwane. Vous l'avez dit, le Sénégal mène par 2-0. Et il reste que 10 minutes, cela veut dire que les Lions de la Teranga sont à 10 minutes d'une deuxième qualification historique pour la Coupe du Monde de football. Comme vous l'avez dit, c'est Diafra Sarr, l'attaquant de West Ham, qui a ouvert le score à la 12e minute. Le deuxième but sénégalais sera marqué à la 36e minute. Un but contre son camp de Clémentine. Il faut dire que sur cette action, c'est l'attaquant de Liverpool, Sadio Mané, qui a failli marquer un ballon repoussé par le gardien de but. Et malheureusement, pour Innocence, qui a marqué contre son camp. Les Sud-Africains, vous le dire, hein, ils ont pris les choses en main, ils ont dominé par comment, ils ont même balloté l'équipe nationale du Sénégal, mais ils n'ont pas été efficaces devant les buts. En ce moment, donc, Yacouba retenait que le Sénégal est à 9 minutes du deuxième qualification historique de la Coupe du Monde de football.
C'était donc. Ah oui, c'était à Medine Si qui est au stade qui nous parle justement de cette rencontre et le Sénégal qui occupe le terrain à 10 minutes. Dans 10 minutes, tout peut arriver, Yacouba.
On dira que la Russie est déjà une réalité pour le Sénégal. Hein.
Ah oui,
les Sud-Africains savent courir, sauf scorer. Quoi.
Et notre collègue Idriss Fall est très content, qui est en train de suivre.
Abdourahmane Diaye également.
Ah oui. Alors, un deuxième match de la journée, l'Algérie qui est déjà éliminée et réduite avant sa rencontre contre le Nigeria qualifié.
Oui, les Fennec seront face aux Sapeurs Eagles du Nigeria, c'est à 19h30, temps universel. Après Atal Goulam Benzebaini et Soudani, c'est le tour de Nabine Bentaleb, blessé, de jeter le punch pour cette première rencontre sous les ordres du nouvel entraîneur Rabah Madjer.
Ouais. Et finale demain samedi dans le groupe C, devancé d'un point par le Maroc. Les éléphants de la Côte d'Ivoire vont livrer une véritable finale face aux Lions de l'Atlas. Et à suivre aussi ce samedi le duel à distance Tunisie-RDC. Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manirakiza, pour aborder la deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Le Burundi rejette toute idée de coopération avec la CPI après l'ouverture d'une enquête sur les violations présumées des droits humains et des crimes contre l'humanité. La ministre de la Justice a indiqué que cette décision est sans effet car, dit-elle, son pays n'a jamais été notifié avant son retrait de la Cour pénale internationale le 27 octobre dernier. L'opposition et la société civile ont accueilli favorablement cette décision qu'elle qualifie d'historique. Le reportage est signé à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Pantine Némé Kanyana a, dans une conférence de presse ce vendredi, quelques heures après l'ouverture d'une enquête de la CPI sur les crimes commis au Burundi entre le 26 avril 2015 et le 27 octobre 2017, elle a indiqué que le gouvernement burundais n'est plus lié par le traité de Rome et dont le Burundi a adhéré le 1er décembre 2004. La ministre burundaise de la Justice estime que cette décision antidatée demeure une dernière carte de l'Occident.
Le gouvernement du Burundi n'ayant pas été notifié de la décision de la Cour pénale internationale avant son retrait effectif du statut de Rome le 27 octobre 2017, il n'est pas lié par les décisions de la Cour pénale internationale car il n'est plus parti au statut qui la régit.
Pour Madame Emile Laurentine Kanyana, cette décision est nulle et non avenue.
Pour le Burundi, cette décision est sans effet. Le Burundi a dénoncé par le passé et le fera encore avec véhémence la manipulation de la justice pénale internationale par les forces néocolonialistes pour tenter de porter atteinte à la souveraineté du Burundi et à opérer un changement de régime. Cette décision est le résultat de l'utilisation coordonnée par l'Union européenne et son réseau composé des militants de l'opposition radicale, les putschistes, certaines organisations non gouvernementales et des nations qui sont hostiles au Burundi.
Du côté de l'opposition et de la société civile burundaise, cette décision vient panser les plaies de nombreuses familles dont les leurs ont perdu la vie après les manifestations survenues après la candidature du président burundais pour un troisième mandat contesté jugé illégal en avril 2015. Pierre Clavin Bonimba, militant des droits humains vivant en exil, a estimé que c'est une très bonne nouvelle, de même que les partis politiques vivant en exil et ceux restés au pays. Le président du Parena, parti pour le redressement national, Zenon Nichayensi.
Nous trouvons que la réaction est normale puisque le Burundi avait antérieurement saisi la Cour pour jugement des crimes internationaux commis au Burundi. Que la Cour fasse son devoir, c'est tout à fait logique. Ce qui n'est pas logique, c'est que le Burundi, qui avait demandé de faire partie de la Cour, se retire pour dire « je ne suis plus concerné » en arguant qu'au Burundi, il y a suffisamment de tribunaux pour traiter cela.
La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, évoque les meurtres de plus de 1200 personnes entre avril 2015 et juin 2017 et des milliers d'emprisonnements et de disparitions. Elle affirme également avoir recensé entre 595 et 651 cas de torture. Bensouda dénonce la responsabilité d'un appareil d'État soupçonné d'attaques systématiques qui auraient poussé à l'exil plus de 400 000 Burundais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Guinée, plus de 8 ans après le massacre de Conakry, des juges d'instruction ont finalement bouclé l'enquête. Le 28 septembre 2009, 157 personnes ont été tuées et 109 femmes violées dans un stade de Conakry pendant un rassemblement contre la candidature de Moussa Dadis Camara. Nathalie Barge a joint à Conakry le ministre guinéen de la Justice, Cheikh Sako.
Hier, officiellement, le ministère de la Justice a annoncé la clôture de cette instruction cette affaire du 28 septembre 2009 parce que le pôle des juges d'instruction, trois magistrats, a communiqué le dossier relatif à ces événements au procureur de la République, le tribunal compétent, pour règlement définitif. Un avis d'ordonnance a été effectivement donné aux avocats et la clôture interviendra dans quelques jours, quelques semaines, après les réquisitions du procureur de la République. Donc c'est une satisfaction pour la justice guinéenne, pour le gouvernement guinéen et pour le peuple guinéen. Il est important pour la nation guinéenne que ce procès arrive à son terme. Donc c'est la première partie qui s'achève par la fin de l'instruction. Dans les semaines à venir, on va entamer la préparation matérielle du procès à venir, dont la date sera fixée ultérieurement.
Est-ce que le procès, selon vous, va se tenir donc en 2018 ?
Comme on vient de terminer l'instruction, la procédure d'instruction qui a été longue quand même pendant un peu plus de 7 ans, vraisemblablement, le procès se tiendra en 2018. Mais je ne peux pas l'affirmer actuellement puisque je vais mettre sous pied un comité de pilotage qui va travailler sur les conditions matérielles et financières du procès et ensuite on va officiellement annoncer la date.
Est-ce que vous travaillez en collaboration étroite avec les associations de victimes ou est-ce que vous en avez l'intention si ce n'est pas le cas ?
Nous travaillons à toutes les parties. D'abord avec les partenaires au développement qui nous soutiennent, le gouvernement des États-Unis qui nous soutient, l'Union européenne, mais également les grandes ONG qui représentent une partie des victimes ici. Dans le comité de pilotage, beaucoup de parties seront représentées puisque c'est la préparation matérielle. Tout au long de la procédure d'instruction, les victimes ont été écoutées. Moi-même, à la chancellerie, je reçois souvent et de façon cyclique les représentants des victimes, ce qui est tout à fait normal.
Est-ce que Dadis Camara va être convoqué en Guinée ?
Écoutez, je ne peux pas répondre à cette question. Il appartiendra aux magistrats de décider s'ils le font venir pour assister et pour participer à ce procès. Mais dans la procédure pénale guinéenne, ça me paraît évident.
Le ministre de la Justice guinéen, Cheikh Sakho.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Le parquet mauritanien a introduit son pourvoi en cassation contre la condamnation hier à 2 ans de prison du jeune blogueur Ould Moreitir, auparavant condamné à mort. Son billet de blog a été jugé blasphématoire. Anastasie Toudiech a joint à Nouakchott, Ahmed Diop, rédacteur en chef du journal Al Akhbar.
Ceux qui donc réagissent contre cette condamnation sont sortis depuis la fin de la prière hebdomadaire sont là dans les rues pour faire face à la police, des jeunes qui jettent des pierres à la police et la police a riposté en leur jetant des grenades lacrymogènes. Mais également, il y a la réaction des ulémas et des imams qui ont fait un communiqué dans la presse contestant donc cette décision.
Depuis 2014, cette affaire a été un véritable parcours du combattant juridique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales étapes ?
Oui, depuis janvier 2014, le jeune blogueur âgé d'une trentaine d'années a été arrêté à Ouagadougou, dans le nord du pays, après qu'il a publié un article donc jugé blasphématoire à l'encontre donc du prophète Mohammed, parce que dans l'article, il dit que sa communauté, les forgerons, sont marginalisés en Mauritanie, et il remonte sa comparaison avec à l'époque du prophète, le traitement des esclaves et des juifs, et faire la corrélation pour dire que voilà, c'est un tout petit peu la même situation qui continue pour dire que cette maltraitance de sa communauté est en quelque sorte un héritage de l'histoire islamique. Donc c'est ça qui a un tout petit peu mis en colère la rue mauritanienne.
C'est ce qui a mis le feu aux poudres. Et alors ensuite, quelles ont été les étapes d'un point de vue juridique ?
Il a été condamné en première instance à mort. Mais lors de l'appel, ses avocats ont demandé à ce que la peine soit requalifiée d'apostasie vers la mécréance, mais la cour d'appel a maintenu la condamnation à mort. Après, les avocats se sont bataillés pour que la Cour suprême annule cette condamnation parce qu'il y avait un point qu'il fallait souligner, c'est que le jeune s'était repenti, donc ça n'a pas été tenu en compte par la Cour d'appel. Donc les avocats ont poussé et que la Cour suprême a demandé à ce que le premier procès en appel soit annulé. Et donc c'est le deuxième procès en appel qui a eu lieu jeudi dernier et il a été donc condamné à 2 ans de prison. Et comme 2 ans de prison alors que lui il était en prison depuis 4 ans et c'est de facto il est libre.
Quelle est la suite ?
Actuellement il y a le parquet général qui s'est pourvu en cassation pour que le jeune soit encore réjugé, casser cette décision qui donc libère le jeune blogueur. Nous attendons, mais des informations qui restent à vérifier, de toute façon, pour le mois, disent que le jeune a été transféré de Ouagadougou vers Nouakchott.
Le journaliste Ahmed Diop à Nouakchott. Suite de la tournée asiatique du chef de l'exécutif américain, Donald Trump a réitéré au sommet du Forum Asie-Pacifique de Da Nang au Vietnam sa politique de l'Amérique d'abord. Les rumeurs d'un possible tête-à-tête avec le président russe Vladimir Poutine en marge du sommet ont été battues en brèche par la Maison-Blanche. Pour une analyse, Timothée Donangmai a joint le professeur Simon Safety du Centre d'études stratégiques internationales de Washington.
L'impossibilité dans laquelle le président américain se trouve de rencontrer M. Poutine en ce moment est liée à l'accélération des enquêtes sur l'impact qu'a eu la Russie sur nos élections en ce moment. Il y a déjà eu quelques inculpations et donc dans ce contexte, il était malheureusement difficile, président américain, de rencontrer Poutine.
À Pékin, le président Trump a dit que la Chine n'a fait que prendre avantage des mauvaises politiques commerciales des précédentes administrations américaines. Comment expliquer ce changement?
J'ai trouvé en toute franchise la déclaration du président américain suivant lequel si vous avez l'opportunité de profiter d'autres États en fonction des besoins de vos citoyens, vous devez le faire. Alors il rétablit franchement un discours impérial. Vous faites au mieux de ce dont vous avez besoin vis-à-vis des plus faibles ou vis-à-vis des plus naïfs. C'est une drôle de déclaration qu'il a fait vis-à-vis d'un État qu'il accusait de viol, entre guillemets, durant la campagne électorale. Alors, j'ai été surpris par son ton et la façon de l'expliquer et de suggérer que Trump croit que la Chine sera à même de nous aider pour ce qui est du problème nord-coréen.
Le président Trump a réitéré au sommet de Da Nang au Vietnam sa politique de l'Amérique avant tout. Qu'est-ce que cela signifie pour l'influence américaine en Asie?
Il s'est déjà retiré, comme vous le savez, du traité commercial avec 11 autres États pacifiques et continue de vouloir traiter des problèmes commerciaux sur une base bilatérale plutôt que sur une base multilatérale. Il a une conception très étroite de la façon dont le commerce international marche au bénéfice de tous ceux qui participent. Mais pour ce qui est de juger de l'influence américaine en Asie dans le contexte de ce déplacement, je crois que franchement il n'y a pas eu plus-value en s'exprimant comme il l'a fait, surtout en Chine. Il a semblé donner le bâton du relais pour ce qui est de la prépondérance en Asie à la Chine.
Le professeur Simon du Centre d'études stratégiques internationales de Washington.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Sims, le mami, a assuré la mise en onde. Le match est terminé entre le Sénégal et l'Afrique du Sud avec la belle victoire des Lions de la Teranga qui célèbre aussi la victoire dans le terrain. Belle performance qui rappelle l'époque de Jules-François Bokandé et Al-Hadj Diouf. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez à l'écoute de VOA Afrique. 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui,
diffusée partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.